Bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture consacrée aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Pour cette dernière émission de l'année, et quelques jours après Noël, nous revenons sur une drôle de naissance, celle de l'ectogénèse, une technique qui vise à faire naître un humain en s'émancipant du corps de la femme grâce à un utérus artificiel. Nous y sommes encore très loin, mais ce procédé qui attise autant d'inquiétudes que de fantasmes dit beaucoup de notre société qui cherche à reprendre la main sur le cours naturel des choses. Plus globalement, où en sommes-nous de la procréation artificielle? Qu'a changé en France la loi bioéthique de 2021 qui simplifie l'autoconservation des ovocytes? Des pratiques parfois perçues comme des avancées féministes ou au contraire comme des nouvelles injonctions du néolibéralisme. Assistons-nous à une révolution anthropologique avec la démocratisation de telles techniques procréatives? Voilà de grandes questions du soir, des questions très meilleures des mondes puisque le sujet résonne avec la dystopie d'Aldous Huxley dont nous assumons l'affiliation. Trois invités sont appelés à répondre à notre dernier appel de l'année. Blaise Mao, bonsoir.
Bonsoir François.
Vous êtes rédacteur en chef d'Ouzbek Erika, revue partenaire de cette émission. Nous reviendrons avec vous sur votre grand dossier intitulé « Dit comment on fera les bébés demain ?» Un numéro à lire dès aujourd'hui dans toutes les librairies et bien sûr sur votre site. À distance depuis Montréal au Québec, Céline Lafontaine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur titulaire au département de sociologie de l'Université de Montréal et autrice de Bio-objet, les nouvelles frontières du vivant, paru chez Seuil l'an dernier. Vous avez une lecture plutôt critique de ces avancées procréatives, guidées en premier lieu par l'industrie de la bioéconomie. Vous aurez tout le loisir de développer votre pensée. Enfin, René Friedmad complète ce trio. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes gynécologue, obstétricien, professeur des universités et auteur de nombreux ouvrages, dont Une histoire de la naissance chez Grasset, paru en 2021. Vous accompagnez depuis de nombreuses années les innovations dans le domaine de la procréation, de la naissance du premier bébé français né d'une fécondation in vitro en 1982, à tout récemment la naissance d'un enfant grâce à une greffe d'utérus en France. Au programme également, les nouvelles du meilleur des mondes et la chronique de Juliette Devaux qui reviendra sur les grandes avancées du meilleur des mondes, notre émission depuis le début de la saison. Alors je vous le dis pour la dernière fois en 2022, merci d'être de plus en plus nombreux à les écouter à l'antenne ou en podcast sur l'application Radio France. Des ondes radiophoniques au cyberespace, le meilleur des mondes, c'est parti.
C'est un constat sans appel. Aujourd'hui, partout ou presque dans le monde, les taux de natalité s'effondrent et les enjeux sont immenses.
On constate que ce désir d'enfant, il est toujours très fort. Il est de 2,39 enfants par parent. Simplement aujourd'hui, le taux de fécondité est de 1,8.
Il y a des études qui montrent, par exemple, qu'en 2050, on ne pourra plus avoir des enfants de manière naturelle.
Direction la Chine, où on a l'impression de nager en pleine science-fiction. Des chercheurs tentent de mettre au point en ce moment un utérus artificiel.
Après la pilule contraceptive, la fécondation in vitro, une prochaine étape sera l'ectogenèse, c'est-à-dire l'utérus artificiel.
C'est-à-dire la possibilité de faire se développer un bébé depuis la fécondation jusqu'à la naissance, en dehors du corps d'une femme.
C'est une petite poche en plastique dans laquelle est enfermé l'embryon et relié à une série de tubes. À grande échelle, il pourrait permettre de créer des fermes à bébés et, dans les délires les plus fous de certains scientifiques, répondre à l'effondrement de la natalité en Chine.
Il était temps qu'on aborde ce sujet de l'ectogénèse en tant que meilleur des mondes, une technique dont le français Henri Atlan est un grand connaisseur. Blaise, vous l'avez interrogé, Henri Atlan, dans votre dossier. D'ailleurs, il nous dit quand même que c'est pas pour demain, cette histoire d'ectogénèse.
Non, il est malin, Henri Atlan. Il se protège, entre guillemets, en annonçant que ça sera pour une date comprise entre 2050 et 2100. Il a l'honnêteté de dire, d'ailleurs, je ne serai pas là pour rendre des comptes, ce qui est malin quand on fait des prédictions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Henri Atlan, il a publié en 2005 un livre qui s'appelle l'UA, hein, l'utérus artificiel.
À pas confondre avec l'IA, évidemment.
Voilà, exactement. Dont vous êtes aussi un fin connaisseur, François. Et l'UA, donc dans l'UA, que nous dit Henri Atlan, il nous explique que d'après lui, si je résume, tout va bien se passer, entre guillemets. D'après lui, l'utérus artificiel ne vient en fait qu'achever une révolution C'est l'aboutissement d'une révolution, je le cite, qui a commencé il y a 70 ans avec la contraception, puis la PMA. Et d'après lui, dans 50 ans, les femmes feront des enfants comme elles voudront. Il ne s'affole pas du tout sur les usages potentiels de l'utérus artificiel. Hein. Pour lui, c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'éviter la double maternité, par exemple, avec la gestation pour autrui, d'éviter la commercialisation du corps de la femme. Donc, il a une vision très rationnelle de cette innovation qui n'est évidemment techniquement, en théorie, possible, mais qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore faire. En fait, ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est la gestation hors du corps jusqu'au cinquième jour de grossesse. Mmh. On sait également finir le travail, entre guillemets, à partir de la 24e semaine avec les couveuses pour grands prématurés. Et en fait, l'utérus artificiel, c'est en quelque sorte le chaînon manquant entre ce cinquième jour et cette 24e semaine.
Voilà, donc il y a effectivement une vision pragmatique, une vision aussi positive, enthousiaste de cette technique. On aura l'occasion de la confronter sans doute avec le regard de Céline Lafontaine dans quelques instants. Mais avant, René Friedman, vous qui êtes un spécialiste, où en est-on de ces expérimentations d'utérus artificiel qui, pour l'instant, sont plutôt menées sur des animaux, mais il y a eu quand même quelques séquences, quelques événements encourageants?
Alors, il faut distinguer, lorsqu'on parle de l'utérus artificiel, il y en a deux. Il y a l'ectogénèse, pour employer ce mot, qui a été inventé par un biologiste qui s'appelle Haldane, hein, qui en 1923 a donc inventé ce terme, qui a été repris par Aldous Huxley, donc dans Le Meilleur des Mondes. L'ectogénèse, c'est effectivement, il y a l'ectogénèse partielle et il y a l'ectogénèse totale. Je veux dire que on peut penser, et le livre surtout d'Henri Atlan évoque cette jonction entre la fécondation in vitro et la culture pendant une semaine in vitro, et puis la continuité de tout ça jusqu'à un accouchement, en tous les cas une sortie de la couveuse, et peut-être une réanimation néonatale à ce moment-là. En fait, aujourd'hui, les travaux qui se font chez les animaux concernent l'ectogestation, c'est-à-dire la partie de la gestation qui est entre 18 et 22, 24 semaines. La durée de la grossesse, c'est 41 semaines. Mmh. Moi, quand j'ai commencé les études, un accouchement avant 27, 26 semaines, on laissait le bébé mourir. Puis les réanimateurs sont venus et ont commencé à prendre en charge. Difficile, parce qu'on n'est jamais sûr des résultats, mais un suivi, des examens. Et on voit que les services de néonatologie peuvent prendre en charge, et des fois avec un grand succès, je dirais, ces enfants extrêmement prématurés. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le succès. Et il y a parfois une survie, mais avec des séquelles. Donc c'est un climat difficile. Simplement, lorsqu'un enfant naît avant 24 semaines, par exemple de 18 à 24 semaines, pour être un peu schématique mais pour qu'on se comprenne, c'est ce qu'on appelle une fausse couche tardive, et là, on ne peut rien faire. Pourquoi ? Parce que les enfants n'ont pas suffisamment d'un produit qui s'appelle le surfactant, et qui permet aux alvéoles pulmonaires de se déplisser, et donc permet aux enfants de respirer de l'air. Donc, vous pouvez toujours l'intuber et le perfuser, ça, d'abord, ce qui n'est pas si simple, mais ça ne marchera pas. Donc, il n'y a rien à faire aujourd'hui lorsqu'une femme accouche parfois à répétition dans cette zone-là, dans cette zone noire. On peut rien faire. D'où l'invention qui s'est faite, on y reviendra peut-être, d'un biobag, d'ailleurs d'une poche dans laquelle on met bien sûr le liquide dans lequel, comme qui ressemble au liquide amniotique dans lequel est l'enfant. Et on va essayer sa survie, et pour l'instant, on travaille sur des animaux.
On travaille sur des animaux, je me permets deux secondes, oui, de vous interrompre, René, oui, Friedman, et vous allez reprendre votre récit. On travaille des animaux comme sur des fœtus d'agneaux, comme à Philadelphie en 2017.
Un utérus artificiel a été testé sur des agneaux, et les résultats sont encourageants, selon les chercheurs de l'hôpital pour enfants de Philadelphie qui ont mené l'expérimentation. Ils ont conçu un appareil constitué d'une poche en plastique remplie de fluide, avec un système qui fournit de l'oxygène relié au cordon ombilical. Grâce à ce dispositif, les chercheurs espèrent améliorer à l'avenir la survie des grands prématurés.
Voilà, oui, juste pour illustrer votre propos.
Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a plusieurs équipes dans le monde, au Japon, à Philadelphie, je veux dire, qui travaillent et qui ont amené des agneaux très prématurés dans ces espèces de biobags et qui ont amené une survie faible, même si ça dure pour les maximum quelques semaines. On va pas plus loin. Donc je veux dire, on est dans la difficulté. Mais disons que cet objectif-là, il faut comprendre l'objectif avant la réalisation.
Bien sûr.
Cet objectif-là, il est d'essayer de sauver des enfants extrêmement prématurés avant la, leur viabilité possible et d'en trouver un sas dans une poche liquidienne avant qu'on puisse les prendre en charge avec la respiration aérienne qui nous caractérise. D'accord. Donc cette ectogénèse-là, qu'on peut appeler ectogestation, puisqu'on est vraiment déjà dans la grossesse, lui, il y a des travaux qui se font ici et là. En particulier, il y a des universités qui ont obtenu des fonds pour essayer de mettre au point ce biobag et la circulation extracorporelle qui va avec. De l'autre côté, et vous le soulignez tout à l'heure, ce qu'on sait faire depuis 40 ans, c'est des embryons in vitro, et donc un développement qui mène à peu près jusqu'au sixième jour, même si des chercheurs voudraient aller plus loin. Il y a des travaux qui se font aussi à ce niveau-là, en particulier avec les imprimantes 3D, on en reviendra peut-être tout à l'heure, pour essayer de reconstituer un organe. En fait, pour l'instant, on est dans une visée académique. Je veux dire par là qu'on cherche à comprendre qu'est-ce qui fait qu'un embryon s'implante ou ne s'implante pas. Donc, on reconstitue artificiellement du tissu endométrial et on essaie de faire jouer plusieurs substances pour voir ce qui peut jouer, ce qui peut pas jouer et permettre l'implantation. On n'est pas du tout dans une volonté de développement et d'aboutir justement les deux bouts de la chaîne que vous évoquiez.
Oui.
On est donc académique au début et on est ectogénèse partielle, ectogestation.
Ectogestation, si on a bien compris.
Pour éviter les grands prématurés.
Voilà, donc effectivement là on sort un tout petit peu de la pure science-fiction pour comprendre effectivement quels sont les tenants, les aboutissants, ce qui guide justement ces technologies-là, même si, et d'ailleurs Henri Atlan nous le dit, et c'est souvent comme ça dans la science, c'est qu'il y a dans un premier lieu un but qui est celui que vous venez d'évoquer, puis peut-être après derrière une généralisation, c'est quand la technologie devient mature, du procédé. Céline Lafontaine, depuis Montréal, qu'est-ce que ça vous inspire justement toutes ces recherches et cette ectogenèse ou cet utérus artificiel?
Ben, je trouve déjà intéressant la façon dont l'émission démarre, puisque bon, l'ectogenèse, on est vraiment dans l'imaginaire de la technique avec monsieur, le professeur Friedman l'a rappelé, là, c'est Adam et ensuite le meilleur des mondes. Donc, c'est vraiment cette idée de pouvoir créer, hein, du début à la fin, tout le processus d'une grossesse. Effectivement, encore là, de façon très technique, parce que là, on fait une définition technique. Donc, aujourd'hui, avec la fécondation in vitro, donc la fécondation, elle est déjà possiblement, elle est déjà à l'extérieur du corps. Et avec les très grands prématurés, on peut maintenant les maintenir en vie dans les couveuses. Donc, il restait une période qui est une période de quelques semaines, de 18 semaines, je pense que M. Friedman disait, et qui n'est pas encore technicisée. Mais la façon même de présenter le problème comme une série de problèmes techniques, d'abord, camoufle énormément le fait qu'on est dans de l'expérimentation pure. Déjà en néonatalogie, je veux dire, la fécondation in vitro, dans ses origines, a produit énormément de fausses couches, surtout quand il y avait la multiplication on plaçait plusieurs embryons pour s'assurer d'une grossesse. Donc, la néonatalité s'est développée en même temps que la fécondation in vitro. Ce qu'on euphémise derrière, c'est quand même la souffrance et l'échec qui est majeur. C'est plutôt quelques petites réussites pour des enjeux importants sur la santé. Et encore aujourd'hui, la fécondation in vitro, je dirais classique, normale, normalisée, elle fonctionne à 30 %. Donc, on est dans un discours très technique, mais en réalité, avec une matière qui s'y prête pas tant que ça.
Vous voulez dire, excusez-moi, Céline Lafontaine, vous voulez dire qu'on invisibilise un petit peu la souffrance provoquée chez le corps de la femme de toute cette technologie en y portant un regard trop positif, trop techno-positif, c'est ça?
Sur la femme et sur l'enfant. Oui, on invisibilise, puis en invisibilisant de façon inconsciente, on s'inscrit dans l'imaginaire de l'ectogenèse. Puisqu'on essaie de regarder les possibles, on prend ça comme un problème technique, on dit faut pas penser qu'on est dans le meilleur des mondes, mais clairement, on remet pas en question le projet même.
Alors, effectivement, là, on est justement là pour en débattre du projet. Peut-être vous avez une réaction rapide, René Friedman, par rapport au regard que porte Céline Lafontaine.
Non, Céline Lafontaine a raison de poser le problème, mais En même temps, sur le plan réel, on passe du médical au sociétal. On peut passer du médical au sociétal. Mais on est préoccupé par des problèmes médicaux. Alors, attention, hein, moi je ne dis pas, et même je serais plutôt réticent, je le dis tout de suite, parce que je pense qu'on prend beaucoup de risques pour le devenir du développement de l'enfant, mais disons qu'aujourd'hui, imaginez une femme de 42 ans, finalement enceinte, après de multiples tentatives, quelles qu'elles soient. Et elle commence à contracter, elle va accoucher trop tôt. L'enfant ne va pas survivre. Qu'est-ce qu'on fait si on a mis au point chez les animaux ce système de biobag? Est-ce qu'on lui propose? Est-ce qu'on discute? Est-ce qu'on a le consentement? Est-ce qu'on évoque bien sûr les complications? On rentre dans ce processus-là d'autonomie et de décision? Ou bien est-ce qu'on considère que non, il y a trop de risques, on n'y va pas? On n'y va pas, donc on laisse mourir le fœtus. Donc le problème, il va se poser comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des financements pour éviter ce genre de situation. Simplement, bien sûr, on comprend qu'à partir du moment où si c'était au point qu'il n'y a pas trop de dégâts, comme la réanimation néonatale, il y a aussi des dégâts, on ne sort pas forcément indemne, mais il y en a qui sortent, heureusement qu'elle existe. Donc, face à cette situation, on va dire, ben, après tout, peut-être on peut le faire dans des situations moins dramatiques, qui sont une grossesse mal supportée, un geste à faire sur le nouveau-né plutôt que d'opérer la mère, plutôt que de le faire sortir. Enfin, il y a tout un tas de situations. Et puis à la fin, moi j'ai envie d'un enfant. Enfin, on peut se poser la question, mais j'ai pas envie d'être enceinte. En tous les cas, je veux pas prolonger ma grossesse parce que la grossesse va m'empêcher de faire de rentrer à France Culture ou de
voilà,
faire.
Voilà, c'est là où effectivement on passe de la technique, des limites de la technologie, de se projeter justement lorsque cette technologie sera mature et des impacts que ça peut avoir effectivement d'un point de vue social. Céline Lafontaine, vous voulez réagir?
Bien sûr, parce que professeur Friedman, vous avez dit il y a la médecine, il y a le médical et il y a le sociétal. Écoutez, la base de la sociologie, c'est que le médical, c'est du sociétal. Et aussi, maintenant, surtout en question de reproduction, la frontière entre le normal et le pathologique ne peut plus se penser dans un terme purement médical. Les questions, les techniques vont être d'ordre médical, mais la question du désir d'enfant, c'est tout sauf une question médicale. Et puis, toute cette question aussi de l'ectogénèse, elle se pose de façon très claire aujourd'hui par la question de la GPA. Parce que finalement, c'est quoi la GPA? C'est l'attente de l'ectogénèse. C'est la préparation de la société. Parce que si techniquement, on pouvait se passer du corps des femmes, ben la GPA, c'est déjà ça. C'est déjà un désir d'enfant qui est projeté, réalisé par procuration. Et donc, la question technique prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, ce qui est le cas de toute notre société. Mais derrière les questions, elles sont profondément sociétales et ce sont des questions de valeur et de qu'est-ce que la vie humaine.
C'est effectivement des questions de valeur. Ces valeurs-là, Blaise Mahaud, dans votre dossier, vous les avez confrontées. Alors, notamment, justement, les propos et le regard de Céline Lafontaine, ainsi que celui de Camille Fouadouvométrie. Alors, c'était sur la question, mais finalement, on en est pas si loin, sur la question de la congélation des ovocytes, de cette possibilité de pouvoir finalement retarder, se donner une chance de pouvoir avoir un enfant plus tard dans la vie. Et on voit qu'entre Céline Lafontaine et Camille Froidevaux, il y a aussi une divergence de point de vue, parce que pour Céline Lafontaine, voilà, on en est là sur la question, c'est qu'est-ce que ça apporte aussi à la société et aussi aux femmes, entre eux, si j'ai bien compris Blaise, mais vous allez nous le résumer, émancipation féministe d'un côté et de l'autre, nouvelle injonction.
Oui, absolument. Alors, l'entretien croisé entre Céline et Camille Froidevaux-Métry porte effectivement sur la congélation des ovocytes. Camille Froidevaux-Métry parle d'égalité procréative, en fait, à travers cette option, cette possibilité de congeler ces ovocytes. C'est-à-dire la possibilité d'offrir à tous les individus qui le désirent les conditions dans lesquelles ils peuvent espérer devenir parents. Elle ne parle pas de droit à l'enfant. Elle fait la nuance, mais elle explique que les conquêtes qui ont permis aux femmes de se libérer du carcan patriarcal, historiquement, ne renvoient pas à une conception libérale de l'existence. Et pour elle, c'est vraiment une option supplémentaire. Donc elle a une vision de la congélation des ovocytes comme un pas de plus dans une forme d'émancipation, un choix de plus pour les femmes à disposer de leur corps, ce qui est quand même leur revendication collective assumée.
Céline Lafontaine, et ça, ce n'est pas, effectivement, on l'a déjà bien compris, une idée que vous partagez.
Il y a vraiment beaucoup de travaux sur l'autoconservation des ovocytes et beaucoup d'études qui ont déjà été menées chez les jeunes femmes qui ont recours. Le modèle libéral, évidemment, c'est le modèle qui est derrière, mais il faudrait comprendre. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le rapport au vivant, les enjeux environnementaux et l'autoconservation des ovocytes s'inscrit dans une logique d'extractivisme. Hein, au début, on a extrait des ovocytes dans le cadre d'une fécondation in vitro, je dirais classique, avec les parents d'intention. Et ensuite, il y a eu les banques d'ovocytes. Ensuite, les banques d'ovocytes ouvertes pour la recherche, notamment à New York. Parce qu'il faut comprendre que tout ça se fait dans le cadre que la procréation assistée nourrit la recherche biomédicale. Et donc, ensuite, on a permis à des jeunes femmes atteintes d'un cancer avant une chimio d'extraire les ovocytes pour pouvoir les conserver. Et puis, ça posait aussi des questions éthiques. Donc, des jeunes femmes déjà malades, mais dans une logique où c'est si important la fertilité génétique de pouvoir leur permettre de conserver, donc de subir des traitements avant des traitements. Ça a été c'est présent dans la littérature biomédicale. Et maintenant, l'autoconservation des ovocytes, c'était Sherry Sandler, la patronne, l'ancienne patronne de Facebook, qui militait justement pour, d'abord, ses frais sont payés par Facebook, par Apple, plusieurs compagnies.
Mais pour bien résumer, qui permettait effectivement aux employés, aux femmes employées qui travaillaient chez Apple et chez Facebook, de pouvoir bénéficier en fait de ces programmes-là, dans un but, on le comprend assez bien, de pouvoir rester en poste le plus tard possible et de travailler pour la compagnie, et que ce désir d'enfant, quelque part, n'entrave pas leur carrière au sein de cette compagnie.
Concrètement, encore, je répète, parce qu'il faut qu'on comprenne qu'on est dans un univers qui n'est pas un univers de maîtrise. Encore aujourd'hui, c'est 30% de réussite pour une première FIV. Donc, on est déjà à projeter des futurs traitements, une future infertilité, au lieu d'ailleurs d'intervenir sur les enjeux, par exemple, de la baisse de la spermatogénèse, les enjeux qui sont liés au fait que les femmes ont des enfants plus tardivement, puisque la société est organisée de cette façon. Et donc, concrètement, ce qui est fascinant, c'est que les études montrent que loin d'être dans une logique carriériste, certaines le sont. Je parle de certaines femmes. La plupart des femmes, des jeunes femmes qui prennent le choix, décident de subir les traitements. Quand je dis subir, c'est parce que c'est quand même douloureux. Il y a des enjeux pour la santé. Et évidemment, on parle d'une prospective. Là. On est dans une prospective et ces ovocytes qui ne seront sûrement pas utilisés ultérieurement pour une grossesse viendront servir l'industrie de la recherche. Mais ce que disent les femmes, c'est l'horloge biologique qui est devenue inadaptée. Elles ne se sentent pas capables de répondre aux exigences de la société avant d'avoir la maison, la carrière, les enfants, le conjoint, la réussite. Et donc, il y a une pression sociale qui s'exerce sur les femmes, sur le corps des femmes et qui maintenant prend la forme de l'autoconservation des ovocytes. Et c'est la forme néolibérale, puisque c'est les femmes qui peuvent le faire, qui vont pouvoir investir dans leur carrière. Mais tout ça est loin d'être positif. Même dans leur propre présentation, on est plutôt dans une forme de pression induite.
René Friedman, comment vous réagissez à ces propos-là? Vous qui êtes plutôt, évidemment, favorable, pour le coup, à la congélation de vos sites comme étant justement une possibilité pour ces femmes-là. Le débat est intéressant puisque finalement, c'est aussi une manière, et vous pourrez réagir, Céline Lafontaine, de sortir de cette injonction potentiellement en se disant, bah voilà, là vous dites la carrière, etc. Maintenant, ça peut être aussi pour demain par rapport à cette technologie, même si j'ai bien compris, vous avez raison de le rappeler, que c'est quand même très coûteux, déjà en temps, pour son corps, et aussi coûteux tout court, et qu'il faut pouvoir se le permettre. Ce n'est pas réservé à tout le monde. René Friedman.
Oui, en fait, dans cette idée de la congélation ovocytaire, on ouvre la porte de la réflexion sur tous les progrès que l'on fait, qui sont susceptibles d'être saisis par une population à un moment donné, laquelle évolue en même temps que telle ou telle découverte technique, mais aussi indépendamment. Je veux dire par là que si les femmes ont des enfants plus tard aujourd'hui, et beaucoup plus tard qu'auparavant, qu'il y a simplement 20 ans, c'est pas parce que la technique s'est développée. La technique, elle a existé, elle a répondu à une demande, puis elle se transforme. L'énergie atomique, c'est une chose, la bombe atomique, c'est autre chose. D'accord? Donc à chaque fois, on est devant un double aspect de toute découverte, de toute nouveauté. Le fond du problème, il est de réfléchir sur qu'est-ce qui est délétère. Alors, parce que toute innovation, à ce moment-là, soit on a une position tranchée et tout ce qui est innovant est délétère, c'est certaines communautés qui se posent comme ça, ou bien d'autres disent, il faut tout faire parce que tout va se faire et donc il faut y aller. Et à mon avis, ces deux positions extrêmes ne sont pas acceptables. Elles ont le mérite de la clarté, mais elles n'ont pas le mérite de la souplesse de la réflexion.
Et de la nuance.
Et donc, il faut définir ce qui est délétère, ce qui est une ligne rouge. Et lorsqu'on voit, d'ailleurs, dans l'histoire de la congélation ovocytaire, si effectivement c'est quasiment imposé par une compagnie qu'on citait tout à l'heure, ou bien si on masque les difficultés, les échecs, ce que ça représente pour les femmes, on n'est pas dans une position correcte. Si on intervient par contre pour considérer que effectivement une femme de 36, 37 ans qui n'a pas de conjoint et qui veut, pour une raison ou pour une autre, reporter cette rencontre avec un conjoint indépendamment du projet d'enfant et mettre quand même sa fertilité en réserve, je vois pas très bien ce qui est délétère, puisque les ponctions sont certes douloureuses, mais enfin, on a des moyens aussi, ça dépend comment c'est fait, ça dépend de l'accompagnement, et tout doit être expliqué, conçu, répondu, consenti, en tous les cas, ça fait partie des offres de soins. Là, encore une fois, l'ensemble de votre thématique, ce soir, c'est de voir, il y a beaucoup de possibles, qu'est-ce qui est une ligne rouge à ne pas franchir ou qui est déjà franchie.
Mais ce que nous dit quand même Céline Lafontaine, c'est que ça fonctionne un peu sur une économie de la promesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, de ce que je comprends, c'est que...
Mais je vous réponds tout de suite, il n'y a pas un projet de grossesse qui ne soit pas hypothétique.
Céline Lafontaine, rapidement, je suis désolée.
C'est parce que c'est à un autre niveau qu'il faut réfléchir maintenant. C'est pour ça que, pour moi, quand j'enseigne ces questions-là à mes étudiants, je leur dis très clairement, c'est impossible de penser une action face au changement climatique si on continue d'avoir ce rapport au vivant. Vous savez, c'est extrêmement... Il y a des enjeux environnementaux qui sont cachés dans les biotech. D'ailleurs, on n'en tient pas compte. Et donc, toute cette cryopolitique, cette conservation, cette congélation, elle a un coût environnemental qui, d'ailleurs, participe aux enjeux. Vous savez, la base de la spermatogénèse, elle est liée en grande partie aux perturbateurs endocriniens, à des enjeux environnementaux. Donc, au lieu de poser la question du rapport invivant induit par cette technologie, bien sûr que toute grossesse est une promesse, une attente, mais c'est pas du tout la même chose d'être dans un immense dispositif techno-biologique avec des immenses ressources et avec des taux de réussite qui sont relativement faibles. Et cette, surtout, fondamentalement, cette idée qu'on peut rattraper le temps, qu'on peut prolonger la vie, qu'on voit le corps des femmes et les limites biologiques de la fertilité comme un obstacle.
Et effectivement, là, ça renforce toute la philosophie, pardon, transhumaniste que l'on décrit souvent et que l'on critique souvent d'ailleurs dans cette émission du meilleur des mondes. Aller plus loin, en fait, de l'enveloppe corporelle, que ça soit pour l'humain ou ici, en l'occurrence, pour l'humain et en particulier la femme. Blaise Mao, rapidement, avant qu'on parte du côté d'Alida.
Deux toutes petites précisions sur la notion de projet hypothétique qui est toujours une grossesse. Effectivement, c'est intéressant de rappeler qu'il y a 30 à 40% de FIV qui aboutissent.
25% en cycle naturel sans FIV de réussite. 25%.
En cycle naturel.
En cycle naturel.
Ouais. Et ce que nous dit Camille Froidevaux-Métry dans l'entretien avec Céline Lafontaine, c'est que c'est pas parce que certains protocoles de soins pour des cancers n'ont pas un taux de réussite de 100%, qu'on ne les engage pas non plus ou qu'on les arrête. C'est important de le préciser. Elle évoque aussi, dans son échange avec Céline, concernant les carrières et la notion de femmes qui font carrière, elle rappelle que toutes les femmes ne sont pas Sheryl Sandberg, numéro 2 de Facebook, et qu'il existe aussi souvent des solutions de garde, il existe aussi des solutions.
Oui, elle dit que
pour mener les deux de front pour les personnes
que
qui
la catégorie privilégiée effectivement voilà. Qui pourrait participer à cette pratique-là bénéficie déjà de tout un tas d'aides qui leur permettent de combiner, de concilier justement carrière et maternité. Justement, en parlant de maternité, je vais vous proposer une mama, non pas la mienne, même si je l'embrasse, mais celle de Dalida. Et on est très heureux toujours d'écouter Dalida un soir de décembre dans le meilleur des mondes. Tout de suite, les nouvelles.
Better, happier, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week.
Les nouvelles du meilleur des mondes, François Saltiel.
Et des nouvelles un peu spéciales puisqu'elles sont teintées de pop culture et de nos représentations en fiction, série ou cinéma avec vous Blaise Mao, puisque dans votre dossier vous consacrez justement tout un dossier sur la manière dont l'utérus artificiel, la procréation, l'ectogénèse est considérée dans nos œuvres de fiction. On y voit souvent une des visions dystopiques, c'est notamment le cas évidemment dans Le Meilleur des Mondes.
Le meilleur des mondes n'est pas seulement effectivement le titre d'une excellente émission, mais le titre du roman, du fameux roman d'Aldous Huxley, adapté en 1998 au cinéma, hélas avec beaucoup moins de génie que le romancier anglais.
Comment est-ce que les enfants étaient décantés dans l'ancien temps ?
Les enfants n'étaient pas décantés, ils naissaient. L'homme et la femme pratiquaient le sexe, la femme tombait enceinte et ensuite elle accouchait, comme les animaux.
Ah oui, c'était le bon vieux temps, oui.
Et oui, dans le futur imaginé par Huxley, la reproduction sexuée, c'est fini. Les bébés sont créés en laboratoire, dans un centre d'incubation et de conditionnement de Londres Central, où les fœtus évoluent dans des flacons et sont conditionnés durant leur enfance pour être en accord avec leur future position dans la hiérarchie sociale, un eugénisme assumé.
Un eugénisme toujours dans une formule plus humaine, quoique, avec Bienvenue à Gattaca, remarquable film, pour le coup, d'Andrew Niccol, lui aussi sorti en 1997.
Le jour où je suis né, alors que je n'étais âgé que de quelques secondes, le moment exact et la cause de ma mort étaient déjà connus.
Espérance de vie, 30 ans et 2 mois.
Et là, les généticiens ont remplacé les René Friedman, enfin plutôt les gynécologues, Blaise.
Oui, absolument, c'est les parents qui sélectionnent les traits de caractère, le patrimoine génétique et donc la destinée de leur enfant. Un bébé sur catalogue, en somme. Voilà le futur, celui par exemple de Vincent, condamné du fait de son hérédité à ne pas pouvoir intégrer l'entreprise d'exploration spatiale Gattaca, qui prononce ces mots à un moment dans le film. J'appartenais à une nouvelle sous-classe qui n'était plus déterminée ni par le statut social, ni par la couleur de la peau. Nous avions fait de la discrimination une science.
Et quand on parle de ces sujets-là, on imagine tout de suite La Servante Écarlate, évidemment, dont la série reprend le fameux roman de Margaret Atwood à plusieurs saisons. Une adaptation réalisée avec brio où la stérilité des humains amène à l'avènement d'un régime totalitaire, religieux même, qui exploite le corps des femmes fertiles qui sont condamnées à enfanter sans pour autant pouvoir éduquer leur bébé. Elles enfantent et elles laissent comme ça le bébé à d'autres.
Healthy girl. Oh, please, stop.
Une petite fille en bonne santé, on vient d'entendre la terrifiante tante Lydia qui rassure sur l'état de santé du bébé qui vient naître, au grand soulagement des riches épouses qui assistent à la cérémonie de naissance, mais aussi de Janine, l'une des servantes écarlates qui ne verra même pas le bébé auquel elle vient de donner la vie. Il faut voir, il faut revoir. Il faut lire La Servante écarlate, qui est une œuvre d'une actualité terrible 6 mois après la révocation par la Cour suprême américaine du droit à l'IVG au niveau fédéral.
Et dans un registre moins terrifiant, histoire de terminer sur une petite note d'espoir, nous avons la série Sweet Tooth, qui est adaptée du comics du même nom, qui met en fond des enfants hybrides, hein, mi-humains, mi-animaux, tandis qu'un virus décime le monde et que les maternités se remplissent de nourrissons aux traits à la fois humains et animaliers.
Excusez-moi, est-ce que vous êtes médecin ?
C'est alors que ton espèce a vu le jour. Un miracle. On vous a appelé les hybrides. Ton boulot à toi, c'est de vivre ta vie. Mais il y a encore des méchants de l'autre côté de la clôture.
Il y a des méchants et par peur ou par soif de vengeance, cette espèce d'hybride est vite traquée donc par ces méchants, ces millénaristes, ces intégristes sectaires qui pensent que les gènes de nos petits hybrides abritent le secret de la survie de l'humanité en péril. Le grand remplacement mais version bête curieuse. Heureusement, les héros donnent finalement beaucoup d'espoir, de l'espoir, et il y en a dans Sweet Tooth, donc à voir sur Netflix.
Merci beaucoup Blaise pour ce petit tour d'horizon dans la manière dont les œuvres de fiction accouchent et provoque des récits et des discours autour de notre sujet du soir.
Welcome to the brave new world.
Et nous sommes toujours en compagnie de René Friedman et de Céline Lafontaine pour discuter d'ectogénèse, même si nous l'avons dépassé maintenant dans le cadre de nos discussions, pour aborder de manière plus spécifique les effets, les causes, les conséquences et les enjeux autour de la procréation, des nouvelles formes de procréation. Céline Lafontaine, quand on a justement entendu toutes ces œuvres de fiction, même parfois de science-fiction, quel est son rôle finalement dans nos imaginaires, dans ces avancées technologiques?
Ben, la science-fiction a eu un rôle très, très important. En tout cas, moi, quand je travaillais sur les nanotechnologies, ben, les chercheurs eux-mêmes faisaient des références directes à la science-fiction. Donc, il y a vraiment un jeu de construction des imaginaires par la fiction et par la science qui nourrissent les projets scientifiques. Sur l'octogénèse, la fiction, elle était plutôt négative. Donc, c'est plutôt de la contourner, l'idée. Il y a une forme de... Dans les nouvelles technologies de reproduction, il y a une forme de contournement de cet imaginaire de la science-fiction et une normalisation.
Et justement, cette normalisation, elle participe à ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire presque nous faire comprendre que ces avancées-là ne peuvent être qu'un progrès, puisque c'est comme ça qu'elles sont plus ou moins montrées, alors soit de manière détournée quand on en montre une dystopie, mais c'est quelque parfois, hein, parfois un tableau tellement noir et tellement sombre que ça banalise finalement le procédé. Et j'aimerais juste mieux comprendre ce que vous évoquez lorsque vous parlez d'une bio-industrie, parce que vous n'occultez pas justement la vision capitaliste de ces procédés, de ces techniques qui utilisent, qui instrumentalisent le vivant.
D'ailleurs, ce qui me fait sourire au début, c'est le petit garçon qui demande à sa mère comment on faisait les enfants avant, puis il disait « wash » comme les animaux. Parce qu'il y a vraiment... c'est toute la question, hein, c'est le rapport au vivant qui revient. Hein. D'ailleurs, en France, il y a tout un retour de la pensée de ce qu'est le vivant, parce qu'on est confronté maintenant aux limites de nos actions sur Terre. Et donc, en ce qui concerne la dimension industrielle, elle est première. Elle est première et aussi la dimension libérale. La question, par exemple, des technologies de reproduction, bien sûr que si on regarde le monde du point de vue de la mère souffrante de 42 ans qui veut un enfant, qui a vécu de la fausse couche, c'est toujours du point de vue des individus extrêmement situés. C'est sur une petite infime part de la population qu'on a mobilisé un énorme dispositif juridique et éthique pour permettre justement une technologie qui, a priori, n'aurait jamais été permise. Donc, c'est l'éthique libérale qui, aujourd'hui, arrive à sa fin, à mon sens, parce que ça rend aveugle aux enjeux sociétaux, aux enjeux globaux, aux enjeux d'exploitation, aux enjeux d'inégalité qui sont portés par cette immense industrie. Les dimensions industrielles sont claires, hein? La fécondation in vitro et les tissus, entre autres, de l'élevage industriel et des techniques de fécondation sur les bovins. Et Adèle Clark, elle l'a très bien montré. L'histoire est très claire. Ce sont des techniques, d'ailleurs, Jacques Testard, qui a longtemps été une porte-parole sur ces questions, lui-même venait du milieu des sciences vétérinaires. Donc, il y a vraiment un lien direct entre la logique industrielle et la logique de la procréation assistée. Ce qui, en soi, n'est pas le mal.
Ce qui en soi
le problème, c'est que quand on regarde de façon historique, seulement décrire les étapes, si on enlève tout le discours éthique et libéral et on regarde ce qu'on fait, bien, ce qu'on fait, c'est que depuis 60 ans, on élargit les raisons pour extraire des ovocytes, pour que cette industrie-là, elle devienne de plus en plus large. Je dis pas qu'il y a un plan à l'origine, je montre simplement que c'est une logique industrielle de la bioéconomie. Le vivant lui-même est une ressource qui a une valeur et qui est de plus en plus importante dans nos sociétés. Et d'ailleurs, l'industrie de la fécondation in vitro a permis d'ouvrir toute la recherche biomédicale sur l'embryon humain. Et ça nous a mené aux IPS, aux cellules pluripotentes induites, puisque la recherche sur les cellules souches a rendu désirable de pouvoir avoir une ressource biologique. Donc, il y a vraiment une logique très claire, historiquement marquée des différentes étapes qui vont vers un élargissement de la demande et un élargissement des produits.
On a compris, Céline Lafontaine, sur effectivement la dimension industrielle que vous évoquez et que vous pointez du doigt. J'en appelle à René Friedman pour avoir son regard de médecin.
Justement, de médecin, vous avez bien dit, parce que il y a deux façons. Il y a une analyse sociologique que fait Madame Lafontaine, et il y a une analyse plus médicale, c'est-à-dire plus au cas par cas pour, je dirais, vivre ou, en tous les cas, ressentir les projets qui nous habitent, qui habitent les uns les autres ici et là avec leurs difficultés. Alors maintenant, de dire que on est devenu à l'industrialisation, non, je crois que ça fait partie des fantasmes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une distance qui se crée entre le désir d'enfant et les possibilités de le faire. Et pour moi, c'est pas tellement la réponse, je dirais, industrielle qui, à mon avis, n'existe pas, parce que c'est tellement aléatoire, justement, ce qu'on évoquait, les résultats, il y a tellement de facteurs qui interviennent. D'ailleurs, je fais une parenthèse, dans l'histoire de l'ectogénèse, ce qu'on peut se poser comme question, c'est, en dehors de la réussite, sans complications ou avec complications, c'est quid d'un humain qui serait, pendant 9 mois, n'a pas le contact avec l'humain, sa mère, en particulier. Et donc, on connaît très bien dans les histoires d'enfants kangourous qui sont nés très prématurément, l'importance du contact corporel, de la chaleur, de la parole, de tous les sens. Mmh. Donc, la vraie question, elle se pose et elle va se poser en permanence, c'est que tout un tas de possibles vont être rendus. Maintenant, à nous de réfléchir sur ce qui est acceptable ou pas. Alors, c'est pas la peine de regarder l'ectogénèse qui en a pour 50 ans pour venir, parce que aujourd'hui, par exemple, les techniques de GPA n'ont pas du tout de technicité particulière. Il n'y a aucune industrialisation. Elles peuvent même se faire avec des rapports animaux, entre guillemets, de type classique, quoi, je veux dire. Mais est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas l'utilisation du corps de la femme? C'est ça le fond du problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une technologie qui est proposée ou une attitude, parce que encore une fois, la GPA, l'insémination ou les rapports sexuels programmés ne sont pas véritablement une nouvelle technologie, mais c'est une façon de faire. Mais dans ces façons de faire, on va de ça jusqu'au clonage demain, jusqu'à la manipulation génétique après-demain. Eh bien, dans tout ça, la vraie question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que c'est délétère pour la personne qui va naître, pour la personne qui donne, pour la personne qui est utilisée. Mmh. Et c'est donc un problème beaucoup plus éthique et beaucoup plus moral que de la technoscience. C'est ça qui va guider le monde. Par exemple, la GPA n'est pas autorisée en France. Et c'est une bonne chose. C'est pas parce qu'elle n'existe pas. C'est parce qu'il a été jugé qu'elle pouvait être délétère pour les personnes qui étaient utilisées, qui étaient exploitées, qui étaient ostracisées de cette façon. Et d'ailleurs, dans les livres, dans les films que vous citez, je rajoute celui de Jeanne Campion sur le lac, où vous avez une scène, enfin tout un film, je sais pas si vous l'avez vu, sur justement l'utilisation des femmes qui sont enfermées et comme des bêtes, alors je veux dire, pour reproduire de l'humain. Donc c'est ça qui monte. Maintenant, la difficulté, encore une fois pour moi, elle est, on peut pas être tout noir et tout blanc. On est obligé d'être dans la relation humaine un peu au milieu.
Oui, mais c'est pour ça, si je peux me permettre, René Freeman, qu'il n'y a pas non plus que le médical d'un côté, le social de l'autre, même si, parce que tout est entremêlé, on le voit bien, puisqu'il y a des barrières éthiques qui vont justement limiter la technologie, la technique, les avancées. Donc finalement, on est dans une réflexion multiple et qui transcende.
Sauf que dans certains pays, il n'y a pas de cette limitation. Donc en fait, je veux dire par là, vous avez, si vous prenez la Californie, je dirais tout est possible. Vous prenez l'Inde, tout est possible. Un homme peut faire trois grossesses GPA en même temps. Il suffit qu'il paye. Donc si on se remet, si on laisse faire ce genre de choses, ça, on tombe dans une utilisation du corps humain et de la personne humaine. À nous de trouver, avec les outils qui existent, une espèce de limitation pour répondre à des situations qui sont pénibles. Mais pas tous les désirs ne doivent pas être
assouvis. Et d'ailleurs, il y a des désirs qui ont été assouvis, Blaise Mao. C'était celui justement d'un biologiste chinois, puisqu'on parlait justement à l'instant de manipulation génétique, ce qu'on a appelé les bébés CRISPR. C'est bien ça, on écoute un reportage et on vous écoute juste après. Et oui, Céline Lafontaine, je vous ai pas oublié.
C'est une annonce qui avait ébranlé le monde de la science. Nous sommes en novembre 2018. He Jiankui, chercheur en biologie chinois, fait une annonce fracassante. Il a réussi à mettre au monde deux jumelles génétiquement modifiées. Son objectif, les rendre résistantes au virus du sida dont leur père souffrait. Une avancée scientifique majeure, à l'éthique très discutable. À l'époque, He Jiankui justifiait son expérience.
Le monde est passé à l'étape de la modification génétique des embryons. Il y aura quelqu'un, quelque part, qui le fera. Si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre.
Et c'est souvent un argument imparable. Si ce n'est pas moi qui le fais, ce sera quelqu'un d'autre. Blaise Mao, sur cette idée des bébés CRISPR, du nom de cette manipulation génétique.
Oui, donc créé par He Jiankui, qui espérait le Nobel et qui a écopé de 3 ans de prison. La question qui se pose maintenant, qu'on s'est posée en tout cas dans le numéro du Zbekirika, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces bébés CRISPR. Là, on est totalement dans l'éthique. C'est-à-dire, est-ce que ces bébés-là, il faut les cacher? Dans un centre, ça a été évoqué par la Chine, garder l'anonymat et peut-être vraiment les isoler socialement. Est-ce qu'il faut au contraire qu'ils aient une enfance normale mélangée à des enfants non CRISPR, c'est-à-dire l'immense écrasante majorité d'entre nous. Et surtout, il va y avoir, donc au-delà de ce risque de biosurveillance et d'en faire des cobayes étranges, il y a la probabilité que d'autres bébés CRISPR arrivent. Donc si on ne se pose pas la question aujourd'hui de l'intégration sociale de ces personnes. Je rejoins là ce que disait René Friedman sur l'éthique. C'est problématique. Il y a Ayo Wahlberg, un anthropologue danois, qui nous dit le plus probable, c'est qu'une famille vulnérable ait recours à ce procédé donc de manipulation via l'outil d'édition du génome CRISPR de façon illégale et un peu désespérée dans les années qui viennent. Donc c'est pas les derniers bébés CRISPR.
Et puis là, on est vraiment dans l'eugénisme. On en est plus très loin. On pourrait même considérer qu'on s'y rapproche à grands pas. Céline Lafontaine, vous avez jugé que la comité scientifique qui a condamné tout de même ces pratiques ne les a pas condamnées assez fermement.
Je voulais juste souligner, quand on parle de l'industrialisation, c'est pas la dimension manufacturière, mais c'est qu'aujourd'hui, quand même, la procréation assistée, c'est un immense marché internationalisé. Avec, vous pouvez aujourd'hui aller sur Internet commander des ovocytes, des spermatozoïdes avec des caractéristiques génétiques préétablies. Donc, on est vraiment dans une immense industrie et qui a des dispositifs techniques assez importants. En ce qui concerne la question de CRISPR, oui, ça c'est très intéressant parce que quand on lit attentivement les raisons qui ont mené à la condamnation de Jiankui, donc le chercheur qui avait fait, la condamnation repose essentiellement sur le fait qu'il n'a pas suivi les règles éthiques de la recherche biomédicale, ce qui est important. Je suis pas en train de dire que c'est pas important, mais c'est essentiellement cette raison et aussi parce que la manipulation était liée au VIH, hein, à la possibilité de permettre que le VIH ne soit pas transmis à l'embryon. Et donc, ça a été jugé comme une raison insuffisante. Et donc, ce n'est pas l'utilisation de CRISPR en tant que telle qui a été condamnée. Ce n'est pas la modification génétique de l'embryon. Mais c'est vraiment, donc ce qui était le cas pour la Convention d'Oviedo, mais maintenant, c'est vraiment, on laisse la porte ouverte, et ça, c'est très clair dans plusieurs des textes américains, français, on laisse la porte ouverte à, éventuellement, si toutes les techniques ne permettent pas, par exemple, de pouvoir empêcher la transmission d'une maladie grave, on pourrait éventuellement utiliser CRISPR. La porte est maintenant ouverte. Il faut voir très clairement comment le processus éthique fait en sorte d'amener une acceptabilité sociale. Et dans le cas de CRISPR, c'est super intéressant parce que finalement, on a fait en Grande-Bretagne la création, comme je l'ai dit, d'enfants à trois génomes sans que ça fasse trop de bruit, bien qu'il y ait eu un grand dispositif parce qu'on était en Grande-Bretagne.
On voit exactement, Céline Lafontaine, justement, cette porte grande ouverte que ça y laisse. Et donc, ce danger pour vous qu'il y a derrière, René Friedman?
Non, je veux dire, c'est comme toute nouvelle technique. Pourquoi est-ce qu'on est contre le CRISPR? C'est parce que d'abord, l'objectif. L'objectif n'est pas clair pour certains qui envisagent un enfant parfait, etc. Par contre, si on envisage le fait... La deuxième raison, c'est que ça peut tout bousculer. Et qu'on ne sait pas très bien ce que l'on fait en enlevant une partie d'une mutation qui serait délétère, d'une maladie réelle et grave. On ne sait pas très bien ce que ça peut faire. Donc on est dans le doute. Et en plus, comme ça peut se transmettre de génération en génération, on rentre dans une situation qui est trop difficile. Mais imaginons, puisque nous avons Huxley derrière nous, on peut avoir Huxley devant nous, et votre émission également, imaginons que l'on sache enlever délicatement une mutation d'une maladie génétique grave, la remplacer par un gène sain, et qu'il n'y a pas de conséquences. Ben on va rentrer dans une nouvelle thérapeutique. L'histoire des bébés bulles, c'est-à-dire des bébés qui ne ont aucune défense contre toute infection et que l'on peut, dans laquelle on fait de modifications génétiques, c'est acceptable. Donc c'est très compliqué parce que encore une fois,
je reprends vos mots, ça existe justement une technologie qui puisse exister sans conséquences.
Ben, c'est ce qu'on cherche avec la recherche, et en particulier, vous avez cité les agneaux qui vivaient pas très longtemps, tout ça. Il faut certaines garanties qui soient, comme toute recherche, toute innovation, nous amène à faire des expérimentations, d'abord sur l'animal, théorique, pratique, et puis à un moment donné, peut se poser la question de passer le pas. L'histoire de CRISPR, aujourd'hui, ça ne se fera... Alors, ça se fait clandestinement, comme ça s'est fait là, mais je veux dire, pour l'instant, c'est super contrôlé, à cause de ce qu'on vient de dire, au moins dans les centres reconnus. Après, tout est possible. Mais je dirais, ce qu'il faut, c'est réfléchir sur l'objectif. Si l'objectif, il est d'avoir un enfant sain, je veux dire, qui ne soit pas porteur d'une tare redoutable, c'est la même chose que le diagnostic génétique préimplantatoire. Qu'est-ce qu'on fait dans le diagnostic génétique préimplantatoire? Ça a levé les bras au ciel, et encore maintenant, puisque la France n'est toujours pas...
Et vous regrettez d'ailleurs que ce ne soit pas dans la loi bioéthique 2021.
Et pourtant, on a 60% des embryons qui ne vont jamais s'implanter.
Et on comprend effectivement dans votre volonté, ça pourrait permettre de limiter justement la souffrance des femmes. La porte reste ouverte, l'émission court, le temps également nous alerte. Céline, vous voulez intervenir, je vous demanderai de le faire très rapidement, car Juliette Deveau est déjà rentrée dans le studio pour cette chronique finale.
Ok. Mais moi, ce qui m'attriste dans tout ça, c'est qu'on parle d'un monde, justement, qui est complètement déconnecté du réel. En ce moment, on a les changements climatiques. Pendant qu'on parle de CRISPR, on crée de la diversité en laboratoire. On a des dispositifs techniques qui sont extrêmement lourds au niveau environnemental. Puis on sait même pas si on va être capable de continuer avec les mêmes capacités de ressources de vie sur Terre. Il y a une espèce de déconnexion entre la pensée, en tout cas une certaine pensée médicale, parce que c'est pas la pensée environnementale. Si on mettait l'ensemble des ressources pour justement prévenir les maladies, les prévenir réellement en tenant compte des limites de la planète. Si on s'intéressait à la fertilité des femmes, si on changeait le travail pour justement qu'on ne soit pas obligé d'avoir des enfants plus tardivement dans nos sociétés, je pense que là, il y a vraiment une réflexion profonde à faire. Parce que dans le fond, l'octogénèse, c'est quoi? C'est l'utopie utopie d'un monde complètement dénaturalisé. Hein? Puis si on pouvait aller sur une autre planète, on le ferait. Mais on passe à côté des réels enjeux. Et en plus, on poursuit un imaginaire qui est fondamentalement délétère.
Vous avez raison, Céline Fontaine. On passe à côté des réels enjeux de la dimension écologique. Mais nous, dans l'émission du meilleur des mondes, c'est une thématique que nous avons traitée au cours de cette année, puisqu'on s'intéressait notamment au low-tech et à la slow-tech. Et Juliette Deveau, qui nous a rejoint ce soir. Bonsoir, Juliette.
Bonsoir.
Va revenir justement sur les grands sujets qui ont marqué le début de notre saison du meilleur des mondes.
Et oui, parce qu'il y a un an, donc le 30 décembre 2021, l'émission avait 4 mois. Aujourd'hui, elle a donc 1 an et 4 mois. Et comme nous adorons les chiffres dans l'équipe du meilleur des mondes, que nous sommes partisans d'une rationalisation comptable systématique. J'ai compté hier François et nous en sommes à la 62e émission du meilleur des mondes. 62 heures d'émission, soit 3720 minutes consacrées au décryptage des bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies sur nos vies, selon la nouvelle formule consacrée.
Ce qui commence déjà à faire beaucoup, hein, toutes ces minutes.
Oui, ça commence à faire beaucoup. Les sujets n'ont pas manqué en ce début de saison 2022-2023, puisque comme vous le savez, le numérique, il est partout et donc aussi dans l'actualité. On s'est interrogé à la rentrée en septembre sur l'apport pour les enseignants des équipements numériques. On est revenu sur la très forte tendance du generative art avec les logiciels comme DALL-E qui ont ouvert de nouvelles perspectives pour les artistes. On s'est penché sur la révolution Tinder à l'occasion de son 10e anniversaire, sur le phénomène BookTok pour la rentrée littéraire et aussi sur les ambitions du Qatar et de l'Arabie Saoudite en matière de technologie dans le contexte d'une compétition sportive ce mois-ci dont vous avez sûrement entendu parler.
Ah oui, il s'est passé quelque chose. Hein,
il s'est passé quelque chose. Mais l'actualité de la tech en cette année 2022 aura surtout été une actualité de crise pour les géants de la Silicon Valley. Licenciements, ralentissement de croissance, errance stratégique, l'occasion de donner dans l'émission la parole au nouveau visage de la technolutte avec Fabien Benoît, d'imaginer une alternative aux réseaux sociaux actuels avec Serge Habitboul dans le contexte du rachat par Elon Musk de Twitter et même de tourner en dérision les GAFAM avec les œuvres critique et onirique, pour ne pas dire loufoque, des artistes contemporains Albertine Meunier et Philippe Villas-Boas.
Moi j'ai fait aussi un petit décompte, hein. Juliette Deveau a prononcé 8 fois loufoque dans ses chroniques depuis le début de la saison.
C'est pas assez.
Et quand on se tourne justement vers l'avenir du meilleur des mondes, dis-moi notre émission, qu'est-ce qu'on peut y voir Juliette ?
Eh bien on y voit déjà la marque de deux moments forts de ce début de saison, le passage de Charlène Biondi dans ce studio qui a bouleversé la rédaction du meilleur des mondes, et votre inauguration François, de la chaîne Twitch pour France Culture pendant le festival et maintenant en octobre, moment emblématique pour l'équipe dont on va entendre un extrait. Vous étiez alors avec le streamer Jean Massier.
Ensuite, je voulais faire un dernier truc, c'est immortaliser ce moment d'une première, de petit selfie. Putain, je commence à être fatigué.
C'est moche.
Moment emblématique, car si ces 12 heures de stream vous ont durement atteint, François, physiquement, et que vous en portez encore les séquelles, elles ont également ouvert une perspective renversante pour le meilleur des mondes, la possibilité d'offrir prochainement des moments interactifs aux auditeurs de l'émission grâce à ce formidable outil qu'est la plateforme Twitch. Mais pour ça, on vous donne rendez-vous dans le meilleur des mondes de 2023.
Merci beaucoup Juliette, en espérant justement que ce développement sur Twitch ne fasse pas partie de l'économie de la promesse dont parlait Céline Lafontaine et que ce désir soit bien réalité pour vous donner donc rendez-vous l'année prochaine et poursuivre ainsi nos aventures et nos réflexions dans le champ de la technologie et du numérique, un champ particulièrement fécond. Et la preuve, c'est que quand on aborde un sujet, on n'a jamais assez de temps pour pouvoir le développer, ce qui me permet de renvoyer aux uns et aux autres à vos différents ouvrages. Céline Lafontaine depuis Montréal, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Bio-objet, les nouvelles frontières du vivant, paru chez Seuil l'an dernier pour comprendre un peu mieux votre pensée et l'approfondir. René Friedman, j'imagine un prochain livre en préparation.
Oui, mais il y a les anciens qui restent d'actualité.
Voilà, qui ne sont pas congelés les anciens, mais toujours disponibles dans toutes les bibliothèques pour pouvoir réchauffer un peu nos pensées. Blaise Mao, votre prochain numéro 12 Bekereka qui sortira ?
Qui sortira fin janvier, qui va parler de mort et qui va parler d'afrofuturisme entre autres.
Voilà, ça parle de mort, ça parle de naissance, c'est le cycle de la vie, comme une année qui commence en janvier qui se termine en décembre, voire même dans 24 heures. Merci à tous de nous avoir suivis depuis le début de la saison et on vous donne rendez-vous bien sûr en janvier pour la suite du meilleur des mondes. Je remercie à la réalisation Camille Mathy, accompagnée par Étienne Rouche, Héloïse Robert, notre stagiaire, et bien sûr à la chronique et à la préparation de ces émissions au pluriel. Juliette Deveau, le meilleur des mondes en 2022, c'est fini.